Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec dans un tout petit instant le journal de Christophe Lamarre. Juste après, on ouvrira comme tous les soirs le débat du Club des Idées. Et ce soir, on verra combien la crise du Covid est un terreau fertile pour les sectes. De plus en plus de gourous surfent sur nos peurs sous couvert de santé ou de bien-être. Qui sont ces nouvelles sectes qui flirtent parfois avec les théories du complot? On en débattra d'ici une vingtaine de minutes. Juste avant, ce sera la carte blanche du jour avec ce soir la philosophe Julia de Funès qui reviendra sur la condamnation de Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. Mais d'abord donc, le point sur l'info avec vous Christophe Lamarre. Il est 19h, merci à vous d'écouter Europe 1.
Là on en profite une dernière fois avant le confinement et le week-end. Et on fait un petit tour dans l'Anse et pour s'amuser une dernière fois.
S'amuser une dernière fois parce qu'après, interdiction de sortir jusque lundi matin 6h, sauf motif impérieux, les habitants du Pas-de-Calais vont connaître le premier de leurs 4 week-ends de confinement.
Rien ne restera impuni, c'est ce que dit aujourd'hui Jean Castex en déplacement à Beauvais. Le Premier ministre joue la fermeté après la série d'incidents qui a secoué la ville.
Le voyage du pape François en Irak, le début de la visite du souverain pontife dans un pays ravagé par la guerre et la crise économique.
La disparition de Patrick Dupont, danseur étoile, surdoué et charismatique et dont l'aura, on le verra, des passer de très loin les frontières de la danse.
Le début de la collecte nationale des Restos du Cœur, l'association compte plus que jamais sur la générosité des Français dans cette période de crise.
La météo en cette veille de week-end, Anissa Haddadi, retour du soleil demain.
Oui, sur une grande partie du pays, c'est vrai que ça va faire plaisir de revoir le soleil, le ciel sera bien plus lumineux. En fait, c'est dans le sud que l'instabilité s'installe avec pas mal de nuages et quelques petites averses et puis des températures toujours aussi froides. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Depuis une heure, les habitants du Pas-de-Calais sont donc confinés chez eux. Interdiction de sortir jusque lundi matin 6h, sauf motif impérieux bien sûr. Alors au moment où sonnait l'heure, on a goûté aux derniers instants de liberté. Maximilien Carlier, vous êtes en direct de Lens.
Oui, ça y est, rideau baissé, les rues sont désertes actuellement. Rien à voir avec cet après-midi, il y a eu du monde devant les boutiques, parfois des files d'attente. On a vu des sacs assez remplis dans les mains des habitants.
Là, on en profite une dernière fois avant le confinement et le week-end. Et on fait un petit tour dans l'Anse et pour s'amuser une dernière fois.
Prendre l'air avant de rester à la maison, bon, c'était un peu moins la fête du côté des commerçants, vous imaginez. Ils vont fermer chaque fin de semaine pendant un mois.
4 week-ends, c'est énorme. Le mois de mars, c'est là où la collection elle commence à rentrer, les beaux jours qui commencent à arriver. C'est là où on travaille plus ou moins le mieux en entrée de collection. Là, bah, disons que ça nous freine énormément, moralement, psychologiquement, c'est difficile.
Et il faut à nouveau s'adapter.
On doit s'organiser. Normalement, moi, je suis fermée le lundi pour aller me fournir. Et puis là, bah, du coup, qu'on est fermé le samedi, je vais me fournir le samedi et j'ouvre le lundi.
Mais est-ce que ça compensera les pertes liées au confinement? Non, répondent ces commerçants lensois qui craignent en plus de voir leur clientèle partir à Douai ou à Lille, dans le Nord.
Maximilien Carlier à Lens, les Lensois qui donc, comme tous les habitants du Pas-de-Calais, vont devoir rester à la maison tout le week-end.
À Beauvais, Jean Castex est allé à la rencontre des policiers. Le Premier ministre était accompagné de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il s'agissait de marquer le coup après les incidents parfois violents qui ont agité cette commune de l'Oise, le tout sur fond de trafic de drogue. Hélène Verzian.
C'est un peu dur à Beauvais en ce moment.
Quand on touche à la drogue, voilà, c'est...
Des phénomènes qu'on connaît. Bon.
Oui, merci, malheureusement.
Une déambulation improvisée des ministres Jean Castex et Gérald Darmanin aux côtés de la maire de Beauvais, Caroline Cayeux. L'occasion pour le Premier ministre de rappeler la volonté de lutter davantage contre les stupéfiants, de témoigner aussi de leur solidarité à l'égard de deux policiers blessés en début de semaine.
Alors, racontez-moi un peu ce qui s'est passé, monsieur. On a vu quelques images, effectivement, édifiantes.
Des jets de mortier et puis des jets de...
Oui, avec l'idée de vous tendre un guet-apens.
C'est ça.
Et là, comment allez-vous?
Ben ça va, plus motivé à repartir à l'action et à...
Pour avoir le dernier mot.
Voilà. La loi républicaine aura toujours le dernier mot, le Premier ministre l'a martelé. Une façon pour l'exécutif de montrer que la sécurité est une priorité, oui, mais la crise sanitaire les rattrape. Une habitante qui ne bénéficie pas des aides de l'État les interpelle en pleurs alors qu'ils entrent dans le commissariat.
C'est pas qu'on ne gagne pas d'argent, c'est qu'on perd tous les mois 10 000 euros.
Depuis un an,
pour nous, c'est terrible. Mais nous, on fait comment, ça, sincèrement, pour nourrir nos enfants, pour continuer à vivre.
Les ministres sont attentifs, prennent les coordonnées de la mère de famille, mais ils n'oublient pas l'objet de leur visite, la sécurité. Le Premier ministre l'a annoncé, pour faire face aux violences urbaines à Beauvais, 10 policiers supplémentaires seront déployés.
Le reportage d'Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. À Reims, un deuxième suspect est en garde à vue dans l'enquête sur la très violente agression dont a été victime un photographe. L'homme s'est spontanément présenté au commissariat. Europe 1, 19h04, la suite de votre journal est la crise sanitaire. Il faut tout reprendre à zéro. C'est le sens, en tout cas, de l'appel des scientifiques qui réclament une nouvelle enquête indépendante sur l'origine de la pandémie.
Et ce collectif, qui regroupe notamment des virologues et des généticiens, estime que la mission de l'OMS, menée il y a un mois à Wuhan, n'a pas pu travailler sereinement puisqu'elle était placée sous la surveillance constante des autorités chinoises.
C'est un voyage très symbolique. Pour la première fois, un chef de l'Église catholique se rend, on peut même dire voyage historique, hein, se rend en Irak. Le pape François est arrivé tout à l'heure à Bagdad.
Déplacement de 4 jours et une visite placée sous très haute sécurité. Le pape François a prévu de rester jusqu'à lundi sur le sol irakien. Le souverain pontife, qui s'est rendu dans la cathédrale Notre-Dame du Secours Perpétuel à Bagdad, cible de la plus sanglante prise d'otage commise contre des chrétiens.
Je viens comme un pénitent qui demande pardon au ciel et aux frères pour de nombreuses destructions et cruautés. Combien avons-nous prié ces années pour la paix en Irak ? Et Dieu écoute. Il écoute toujours. C'est à nous de l'écouter, de marcher dans ses voies. Que se taisent les armes, que leur diffusion en soit limitée ici et partout. Que cessent les intérêts partisans, ces intérêts extérieurs dont se moque la population locale.
Le pape François, propos recueillis par notre envoyé spécial en Irak, Jean-Sébastien Soldaini.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et l'émotion du monde de la danse après la mort de Patrick Dupont.
Et puis la fin de l'enquête interne à la Fédération française du rugby. On veut tourner la page Covid.
19h07, c'est la suite du journal de Christophe Lamar sur Europe 1 et une étoile s'en est allée aujourd'hui. Patrick Dupont est décédé cet après-midi brutalement à 61 ans. La danse perd un génie et l'une de ses figures sans doute les plus connues à travers le monde.
Oui, il avait été nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris à 21 ans. Patrick Dupont a révolutionné littéralement l'univers de la danse. Un danseur hors du commun et généreux. Salut Marie-Agnès Gillot, cette danseuse et chorégraphe doit son entrée à l'Opéra de Paris justement à Patrick Dupont.
Patrick Dupont, ça a d'abord été mon petit père. Il m'avait pris, c'est lui qui m'a fait rentrer dans la compagnie de l'Opéra de Paris. Puis après, il m'avait pris sous son aile et j'ai fait les premiers galas. J'ai fait tout le. C'est un pan de ma vie qui s'efface avec lui. C'était le plus grand danseur français. On n'en avait pas deux comme ça. C'était une star, quoi. En fait, il a apporté la modernité. Il a ouvert la danse, le contemporain. C'était un interprète favori de Béjart. On est passé du Moyen-Âge à la modernité, quoi. En fait, j'arrive pas encore à le croire et à le penser. Parce que j'avais encore des projets avec Patrick, d'aller enseigner dans son école. Et donc j'arrive pas du tout à. C'était quelqu'un qui était resté proche de moi, qui m'appelait, alors qu'il vivait à Bordeaux. Donc c'est hyper bizarre parce que je n'arrive pas à visualiser ce manque dans ma vie pour l'instant.
Voilà l'émotion de Marie-Agnès Gillot ce soir sur Europe 1, danseuse, chorégraphe. Après la mort de Patrick Dupont, elle répondait à Angèle Châtelier.
Circuler, il n'y a presque plus rien à voir. L'enquête interne de la Fédération française de rugby ne désigne aucun responsable après les nombreux cas de Covid qui ont décimé le 15 de France.
La ministre des Sports a reçu le président de la Fédération, Bernard Laporte, ce matin. Roxana Maracineanu, qui n'a rien trouvé à redire aux conclusions de l'enquête. Pas de sanctions donc, et même une volonté, Simon Rubin, celle de tourner la page.
Et c'est exactement ça. Tout finit bien dans le monde merveilleux du rugby. Bernard Laporte, ce matin, s'est fait taper sur les doigts, mais maintenant, on n'en parle plus. Alors, l'idée, quand même, est désormais de renforcer le protocole sanitaire. Roxana Maracineanu, la ministre, l'a dit, le protocole actuel n'est pas suffisant.
Il n'indique pas forcément comment on doit s'y prendre au moment où l'équipe de France se rassemble. Bernard Laporte a convenu que ça méritait d'être renforcé. C'est pourquoi aussi il a été souhaité que Raphaël Ibanez vienne renforcer cette équipe. Il y a un tournoi à destination à terminer et il s'agit de le faire dans les meilleures conditions.
Raphaël Ibanez, donc, qui va vraiment s'occuper des questions Covid au sein du 15 de France, il ne sera pas tout seul puisque le ministère a insisté pour faire nommer un autre cadre technique national dans ce but. Alors parmi les nouvelles règles de ce nouveau protocole, on ne sort pas de l'hôtel en déplacement, on limite ou on surveille étroitement les partenaires d'entraînement extérieurs au groupe. Voilà qui tranquillise les autorités et devrait permettre aux Bleus de boucler le tournoi.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1 tient la retraite d'un double champion du monde. Jean-Baptiste Grange décide de ranger ses skis à 36 ans. Il a décroché 2 fois l'or mondial sur le slalom qui était sa spécialité.
Et puis Christophe-Michel Platini ne s'interdit pas de reprendre des responsabilités sportives. L'ancien président de l'UEFA défend par ailleurs l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, candidature qu'il avait soutenue.
Oui, et je suis le seul à avoir dit que j'avais voté pour eux. Je n'ai eu que des ennuis depuis, explique-t-il dans une interview au quotidien allemand Die Welt. Michel Platini qui est sous le coup d'une procédure judiciaire suisse pour un paiement de 2 millions de francs suisses versés par l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter.
Et c'est un concert toujours très attendu qui a lieu ce soir, celui des Enfoirés, pour soutenir bien sûr les Restos du Cœur de Coluche.
Oui, mais avant cela, évidemment, il y a cette crise économique qui est visible dans les rues de plusieurs grandes villes et pas que dans les grandes villes. Les files d'attente pour obtenir de quoi manger sont chaque jour plus nombreuses devant les banques alimentaires. Et depuis ce matin, les Restos du Cœur ont lancé leur grande collecte dans les supermarchés. Reportage Zoé Palier.
Voilà, je vous donne un petit pois, lentilles et haricots verts. Je vous aide un petit peu. Merci beaucoup.
Une fois passé en caisse, Zora laisse une partie de son sac de course dans les bras d'un bénévole en chasuble rose, désireuse de soulager quelques victimes de la crise.
Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver à nous aussi, de se retrouver à la rue, de ne pas manger. Le jour au lendemain, on peut perdre tout avec toute cette période noire. Pour aider comme on peut, voilà.
Conserve de légumes, briques de lait, produits d'hygiène, les cartons se remplissent vite, bien plus vite que l'année dernière, se félicite Michel, bénévole.
Et ça, c'est le premier carton de biscuits, mais on doit être au 5e carton de féculents. Ça marche très bien. Les gens sont très généreux.
Une solidarité qui rassure Patrice Douret, président des Restos du Cœur.
Cette année, nous avons tout à craindre d'avoir un nombre beaucoup plus important de personnes accueillies. Ce week-end, c'est le week-end où il faut se préparer à faire face à cette augmentation des besoins à venir.
Son objectif, que des repas soient distribués jusqu'à l'été. Il faut pour cela dépasser les 7000 tonnes de produits collectés.
Merci pour les Restos du Cœur.
Un reportage Zoé Palier donc pour le début de cette collecte des Restos du Cœur dans les supermarchés. Et puis ce soir, Isabelle, eh bien, il y aura le concert-événement donc des Enfoirés sur TF1. L'édition 2021 s'intitule « À côté de vous ». Pas de public bien sûr, Covid oblige, mais évidemment de nombreux artistes sur scène.
Ici et maintenant, hier et maintenant, toujours et maintenant, enfoiré maintenant, demain et maintenant, hier et maintenant, entends les battements.
Est-ce que vous entendez ? Eh bien, c'est le nouveau single des Enfoirés, ça s'appelle « Maintenant », vous l'aurez compris. Merci, c'était le journal de Christophe Lamarre. On vous souhaite un très bon week-end, Christophe. Anissa Haddadi, c'est à vous et vous nous promettez pour demain. Demain, c'est le week-end et on aura froid, ressenti bien hivernal.
Mais
en tout cas.
Oui, on va avoir froid puisque la bise qui a soufflé aujourd'hui souffle encore demain sur la moitié nord du pays avec des rafales jusqu'à 50 km/h. La bise, vous le savez, c'est ce vent qui vient du nord-est et qui rafraîchit l'atmosphère. Et parfois, c'est assez vivifiant. En Bretagne, en Normandie, sur les Hauts-de-France, la région parisienne et toute la moitié nord, rassurez-vous, le soleil va briller dans un ciel bien dégagé. Au sud de la Loire, là aussi, le temps est lumineux demain, avec tout de même quelques passages nuageux. En fait, c'est en Provence, sur les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, et même jusqu'aux Pyrénées, que le temps sera le plus couvert demain, avec des averses et même des chutes de neige sur les Pyrénées et les Alpes à partir de 1500 mètres d'altitude. Les températures, alors elles sont plus froides, et en plus avec la bise, va falloir se couvrir. Moins 4 à 0 degrés sur le nord et le nord-est demain matin, 2 à 8 degrés partout ailleurs. Et puis dans l'après-midi, on aura 6 à 16 degrés, 6 pour Dunkerque, 10 à Paris, 11 à Lyon, 15 à Nice, 16 à Marseille, la maximale également pour Bastia et Ajaccio.
Bah c'est pas mal quand même. Merci beaucoup Anissa, on vous souhaite un très
bonne
week-end.
Soirée.
On ouvre tout de suite sur Europe 1 votre clock des idées avec dans un instant le débat. On va vous parler de ces sectes qui surfent sur l'épidémie. Mais d'abord, c'est la carte blanche du jour.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Julia de Funès qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Julia.
Bonsoir Isabelle.
Alors, vous souhaitez revenir sur la distinction entre indice et preuve. Pourquoi ? Eh bien parce que cette distinction, elle est apparue dans l'actualité cette semaine au sujet du procès de notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a été condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. Le jugement ne fait pas état de preuve, mais d'un faisceau d'indices. Alors, quelle est la différence entre ces deux termes ?
Alors, en l'espèce, c'est vrai que la justice semble avoir remplacé les pièces à conviction par la suspicion et les preuves par les indices. Or, un indice, qu'est-ce que c'est ? Un indice, c'est un signe vraisemblable. Le vrai, c'est le réel. Le vraisemblable, c'est le possible. L'indice n'est donc ni vrai, puisqu'il n'est que vraisemblable, d'accord ?
Oui.
Ni faux, puisque, comme le dit la maxime, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. On ne peut donc rien déduire absolument d'un indice, ou alors c'est dérivé injustement du possible au réel.
Bon, j'ai bien compris la distinction du vrai au vraisemblable, la distinction voilà. du réel au possible.
Ben c'est exactement la même chose. Vrai est du côté du réel, possible est du côté ouais. du vraisemblable. Et vous savez comment se prénomme celui, pour concrétiser ce que je raconte là, celui qui confond sans cesse indices et preuves vraisemblables et vrais, possibles et réels dans la recherche du temps perdu de Proust. Il s'appelle Bloch.
Ah oui.
Il est B-L-O-C-H. Il est l'archétype de celui qui part. Les liens logiques qu'il tisse entre les événements se trompent sans cesse à propos de la réalité. Quand Bloch découvre que le narrateur vit avec Albertine, il en déduit aussitôt que c'est la raison pour laquelle le narrateur ne sort plus de chez lui. Or, les deux faits n'ont aucun rapport entre eux. Le narrateur ne sort pas de chez lui pour une toute autre raison. Est-ce que j'ai le temps de citer une phrase de Proust? Mais une phrase de Proust, c'est long. Mais non, mais
oui,
j'ai fait
dépend.
Le plus rapidement possible. Alors, je cite. « Ceux qui apprennent sur la vie d'un autre quelques détails exacts en tirent aussitôt des conséquences qui ne le sont pas et voient dans le fait nouvellement découvert l'explication de choses qui précisément n'ont aucun rapport avec lui. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est dire que Bloch, par un excès de liens logiques, ne cesse de voir des causes là où il n'y a en fait que des concomitances. Si la médecine ressemble parfois à Knock...
La justice... Et là, vous ne me dites pas K-N-O-C-K ?
Oui, non, parce que celui-là, tout le monde le connaît, Bloch un peu moins. Si la médecine ressemble parfois à Knock, la justice ressemble à Bloch quand elle confond le vrai et le vraisemblable, le réel et le possible, et les causes et les concomitances. Avec Knock, c'est la santé qui est supprimée. Avec Bloch, c'est la réalité. Les deux sont des usurpations de pouvoir, des torsions du réel qui méritent toute notre circonspection.
Merci beaucoup, Julia Tunès. Je crois que j'ai presque tout compris. On précise que Nicolas Sarkozy a fait appel, en tout cas, de cette condamnation. Nous Merci en. À vous.
Merci. Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, votre club des idées consacré à l'inquiétante augmentation des dérives sectaires en France depuis le début de cette pandémie. À tout de suite. 19h19, ce soir, dans votre club des idées d'Europe 1, on s'intéresse à ces mouvements sectaires qui prospèrent avec la pandémie. La crise sanitaire a, semble-t-il, créé un terreau propice à ces dérives. On en parle avec mes invités ce soir. Marie Drillon, vice-présidente de l'UNADFI, c'est l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes, association qui lutte contre les différentes formes en fait, d'emprise mentale. Bonsoir Marie Drillon.
Bonsoir.
À mes côtés également, Nathalie Lucas, anthropologue, directrice de recherche au CNRS et directrice du CESOR, le Centre d'études en sciences sociales du religieux. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bonsoir également Serge Effez. Vous êtes en ligne, théoriquement, si tout va bien avec nous. Serge Effez, psychiatre au sein du groupe hospitalier universitaire Sainte-Anne à Paris. Bonsoir à vous, Serge Effez.
Bonsoir.
Bonsoir. Un rapport a donc été remis il y a quelques jours à Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Et c'est pour ça qu'on va parler de ce sujet ce soir. Rapport de la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui met en relief l'augmentation, justement, de ces dérives sectaires à la faveur de la crise sanitaire. Alors je voudrais d'abord qu'on pose bien le débat. Quel est le constat? De quel genre de secte parle-t-on, Marie Drillon?
Alors je vous dirais que je ne parle pas forcément de secte, mais plutôt d'emprise sectaire.
Oui.
Voilà, parce qu'elle peut être exercée par une personne toute seule ou installée par dans un mouvement plus important. Et en fait, qui se traduit par... des ruptures sur les personnes, des ruptures personnelles, des ruptures avec l'entourage, des ruptures avec la société. Voilà.
Mais ça c'est le principe même des sectes, j'ai envie de dire.
C'est le principe de l'emprise sectaire.
Voilà.
Parce que, si vous voulez, le mot secte, voilà,
bien
Madame
sûr.
Lucas vous le dira mieux que moi, c'est un mot qui...
Sauf que là, dans ce rapport, on met en évidence surtout c'est cette emprise sectaire qui surfe sur cette crise du Covid.
Qui s'est développée aussi parce que le processus est le même que celui... En tout cas, très proche de celui du complotisme ou de la radicalisation. Les processus d'entrée sont les mêmes. Et c'est vrai que la situation créée par la pandémie a mis des personnes dans des situations de fragilité, on comprend bien pourquoi, ou d'enfermement,
oui.
Enfin d'enfermement, en tout cas de restriction de contact. Qui ont favorisé la recherche de solutions et de réponses et qui sont parfois tout à fait extrêmes.
Ouais, on va y revenir, voilà. on va expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Il y a toujours eu des sectes, hein, comme les Témoins de Jéhovah, par exemple, ou l'Ordre du Temple solaire, Nathalie Lucas, la Scientologie, mais là, on parle vraiment d'autre chose hein, qui est liée à cette crise sanitaire, qui est spécifique.
Mais écoutez, justement, on se demande un peu de quoi on parle. Les choses sont très vagues et personnellement, je n'arrive pas bien à cibler de quoi on parle. J'ai entendu qu'il y avait 500 nouvelles sectes. Mm-hmm. Et je ne sais pas ce que c'est, à vrai dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit actuellement autour de tout ça. Et il est évident qu'il y a une très grande déstabilisation de la population, qui fait que les gens vont chercher tout azimut quelque chose qui peut soutenir une idée qui a du sens pour eux. Que ça doit entraîner des choses évidemment très fortes, mais à tous les niveaux. Mais ce dont on parle, c'est le développement personnel qui s'accélère, le coaching qui s'accélère. Et lorsque je vois ce dont on parle, ou alors, je ne sais pas, des choses de nourriture qui ont toujours existé par ailleurs, effectivement, qui n'ont absolument rien de nouveau. Et alors on nous dit, mais il y a le prix, c'est déstabilisant, soudainement ils organisent des coachings à tel prix, bon, un coaching.
Alors, ça n'est peut-être pas foncièrement nouveau, mais enfin, ça s'est quand même développé, ça, vous êtes tous d'accord avec ça. Et oui. Quand je disais que la crise sanitaire est un terreau propice à ces dérives, c'est parce que, Serge Effès, parce que les Français sont plus fragiles, évidemment, en ce moment, hein, c'est ce qu'on disait, c'est plus facile de leur faire passer des messages, on est plus à l'écoute, et ces sectes jouent sur les peurs, hein.
Mais absolument, absolument, et particulièrement chez les jeunes, particulièrement chez les adolescents et chez les jeunes gens qui sont un peu déboussolés, qui sont déprimés, qui sont angoissés, qui sont beaucoup, beaucoup confrontés aux écrans parce qu'ils sont beaucoup plus chez eux, bien évidemment, ils sortent moins, ils sont moins en groupe. Donc, ils sont évidemment des proies tout à fait désignées pour les théories du complot au sens large, c'est-à-dire pour tout ce qui va développer chez eux une méfiance, voire une sensation paranoïaque un petit peu par rapport au reste du monde. Et on sait bien que l'emprise sectaire, moi je suis tout à fait d'accord avec ce mot-là, elle se fait sur ce terreau-là, c'est-à-dire sur le fait qu'on convainc un jeune que tout son entourage est menaçant, que l'extérieur est menaçant et que seule l'idéologie à laquelle il est en train de s'affilier va pouvoir le sauver, le purifier et donner un sens à son existence. Alors pour ce qui me concerne, moi qui m'intéresse aux idéologies extrémistes islamistes, je vois un autre consultation, de plus en plus de jeunes qui, effectivement, à la faveur du confinement, se sont connectés à des sites extrémistes et qui commencent à adhérer à des idéologies qui sont extrêmement dangereuses.
Oui, ça c'est autre chose. Là, on va encore plus loin parce que ce que vous nous disiez tout à l'heure, Marie Drillon, c'est que ces nouvelles sectes, elles envahissent beaucoup le créneau bien-être, le créneau santé. Parmi les signalements recensés l'an dernier, 41% concernent des questions de santé, de bien-être ou de médecine alternative. Hein.
Oui, alors moi, au niveau de nos associations, je n'ai pas de compte de ce que les associations sont répandues.
Ça, ce sont les chiffres de la Miviludes.
Oui, ce sont les chiffres de la Miviludes.
Officiels, Miviludes qui dépend du ministère de l'Intérieur.
Ce qui est exact, c'est que quand même, depuis un certain nombre d'années, le bien-être, hein, au sens large, c'est-à-dire qu'il peut recouvrir des pratiques de soins, mais aussi du développement personnel, des propositions de gains de sa personnalité. Ça, c'est un vrai business. Ça, oui. C'est notre constat. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même beaucoup d'argent, des stages qui coûtent très cher. Et donc, il faut bien que chacun trouve sa place et donc fasse de la publicité et se mette en avant des choses qui ne sont pas forcément... par derrière, où il n'y a pas forcément les compétences. Ça, c'est
alors,
vrai.
Vous qui faites partie d'une association de défense des familles, quel est le profil des personnes susceptibles de succomber à ces messages ?
Oh ben, il n'y a pas de profil, parce que si vous voulez, c'est une réponse à quelque chose qu'en général, la personne n'a pas forcément conscience, mais elle est attirée. Hein. Faut pas croire comme ça, on lui met le grappin dessus et puis on la tire avec des ficelles, c'est pas du tout ça. Parfois, elle n'a pas conscience que là, il y a quelque chose qui l'intéresse, que ce soit de la spiritualité, que ce soit de la recherche, de la curiosité, etc.
Mais il y a quand même une fragilité peut-être à la
base.
Oui,
il peut, mais pas toujours. Des gens se sont retrouvés embringués dans quelque chose qui finalement ne les a enfermés, alors simplement par curiosité. Pour le moment, ce qui est certain, c'est que la fragilité est énorme. J'entendais Serge Effès parler des jeunes, mais nous avons entendu cette année plusieurs fois des adultes qui, à la faveur du confinement, d'éventuellement chômage, se sont progressivement coupés du monde et sont devenus complotistes, grands complots mondiaux, avec du coup un déséquilibre de la famille aussi, parce que pression pour les enfants, pour que les enfants suivent le même régime, pour que les enfants ne se fassent pas vacciner, pour que les enfants ne portent pas de masque, etc. Et ça, c'est à la fois ces personnes-là ont trouvé des réponses à, à des questions existentielles. Qu'est-ce qui nous arrive avec cette crise, si vous voulez ? Et en même temps, ils ont trouvé, via Internet, une communauté virtuelle, souvent aussi.
Oui. Écoutez, je vous propose qu'on poursuive ce débat passionnant dans un tout petit instant sur Europe 1. On va continuer de parler de cette emprise, de ces dérives sectaires en cette période de crise sanitaire. Les maladies sont des points d'entrée faciles, généralement, pour les auteurs de ces dérives. À tout de suite sur Europe 1. 19h30, on poursuit notre débat sur Europe 1 consacré ce soir à l'inquiétante progression des sectes en France, des dérives sectaires. À la faveur de la crise sanitaire, on observe de plus en plus une convergence inquiétante entre marché du bien-être, crise sanitaire, dérives sectaires, théorie du complot. On en parle avec mes invités, Marie Drillon, qui est vice-présidente de l'UNADEFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Nathalie Lucas, qui est chercheuse au CNRS, anthropologue directrice du CESOR, le Centre d'études en sciences sociales du religieux. Et Serge Effèze, vous êtes également toujours avec nous. Serge Effèze, psychiatre au sein du groupe hospitalier universitaire Sainte-Anne à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que nous disait tout à l'heure Marie Drillon. Elle nous disait que finalement, ce ne sont pas forcément les personnes les plus fragiles qui sont victimes des dérives sectaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Serge Effèze ?
Oui, enfin, parce que des personnes qui sont tout à fait normales peuvent être fragilisées aussi à certains moments et peuvent avoir besoin de sortir de leur, je dirais, environnement cognitif habituel. Et que, en ce moment, beaucoup de gens sont fragilisés avec la crise sanitaire. Beaucoup de gens sont sensibles au discours complotiste, et on le voit bien, par rapport à démêler le vrai du faux, ne serait-ce que par rapport à l'épidémie, au traitement, au vaccin, aux actions des uns et des autres, aux différents discours qui sont énoncés. Donc il y a un flottement et une incertitude, et même les personnes, je dirais, les plus charpentées psychiquement peuvent être un petit peu fragilisées par tout ça, et donc être de plus en plus attiré, et je le vois beaucoup autour de moi, même sans parler de sectes, aux différentes théories du complot qui fleurissent sur Internet. Mais pour que on parle d'emprise sectaire et d'adhésion sectaire, quelles que soient les valeurs qui sont défendues, eh bien, il faut arriver à de plus en plus à une rupture, c'est-à-dire à une rupture par rapport aux croyances habituelles, aux valeurs communes, aux valeurs de la société, aux valeurs du lien social. C'est-à-dire, il faut à la fois rompre avec le discours habituel auquel on adhère et aussi relationnellement avec votre entourage habituel. Et donc, les personnes qui cherchent à vous harponner dans cette dérive sectaire, leur première action, c'est de vous couper de votre environnement, de votre famille, de vos amis, de vos activités habituelles.
Et ces personnes, elles ont un terrain rêvé, ce sont les réseaux sociaux, puisque c'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps en ce moment sur Internet en général, sur les réseaux sociaux en particulier. Nathalie Lucas, depuis le début de la crise, le trafic Internet mondial a augmenté de 70% dans les régions du monde confinées.
Oui, c'est très sûr, mais lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on n'est pas coupé de sa famille, on est quand même avec elle.
On est un peu dans une bulle quand même.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais ceci dit, voilà, on est quand même dans sa famille, on ne part pas dans ce qu'on appelle la secte, à savoir où on part dans un groupe qui nous enferme. Et je crois quand même qu'il faut noter cette différence, parce que les jeunes vont là-dessus, mais les jeunes zappent énormément, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils vont... Pour la majorité d'entre eux, parce que bien évidemment, il y en a qui vont aller très loin, qui vont être totalement déstabilisés, qui vont s'enfermer. Et même sans ça, on voit aujourd'hui des jeunes qui deviennent anorexiques, qui deviennent... Il y a une vraie fragilité de tout le monde, de toute la population qui souffre de ce que nous vivons actuellement.
Oui.
Là-dedans, évidemment, dans les réseaux sociaux, il y a de tout. Et on est beaucoup d'entre nous sommes en train de regarder ça en essayant de trouver comment donner sens. Si les gens vont voir ces réseaux, si les gens vont voir ces conspirationnistes, c'est parce qu'ils cherchent du sens. Alors évidemment, vous avez des discours apocalyptiques, mais quelque part, vous l'entendrez très facilement autour de vous. On a l'impression de vivre l'apocalypse, on change totalement de régime de vie. On a l'impression qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après. Donc forcément, ça va donner corps à ceux qui, avant, avaient ce genre de discours. Donc ce qui se passe, c'est pas que soudainement, il y a des choses nouvelles, c'est que ce qui existait déjà de façon latente se renforce forcément et sont plus vus vu que les gens n'ont rien d'autre à faire.
Oui. Enfin, on a l'impression, Serge Effes, qu'avec Internet, finalement, c'est pire qu'avant. On peut être endoctriné, seul, chez soi, parce que bêtement, on se dit, bah, vu qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut voir personne, ça doit être plus compliqué de se faire embrigader. Ben non.
Non, c'est pas, au contraire, c'est beaucoup plus simple parce que les gens sont effectivement beaucoup plus confrontés à Internet dans la solitude en général de leur chambre et ça crée une véritable bulle cognitive. Et effectivement, je suis d'accord pour dire que c'est pas la même chose de partir dans une secte et d'être complètement coupé du monde extérieur, mais tout de même, cognitivement, psychiquement, mentalement, vous avez, alors moi je parle des jeunes parce que je m'occupe principalement de jeunes, mais ça peut être aussi chez des adultes, le fait de vous couper psychiquement et cognitivement des autres peut tout à fait se faire alors que le reste de votre environnement est dans l'appartement et dans le salon à 30 cm de vous. Et quoi qu'il fasse, et je vois des tableaux absolument catastrophiques de jeunes qui sont totalement coupés des réalités, totalement coupées de leur environnement, alors qu'ils continuent à cohabiter avec leur entourage et avec leur famille.
Vous vouliez compléter ce
oui,
propos, Nathalie
Descartes. Je pense que M. Effes parle plus justement des processus de radicalisation, mais je voudrais quand même ajouter que pour y avoir un peu étudié tout cela, ce dont on s'aperçoit, c'est que certes, les gens sont happés par des réseaux sociaux, mais que si ensuite il n'y a pas un groupe avec un meneur auquel adhérer, ça se défait quand même un peu. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi qu'il y ait quelque chose de physique qui donne corps à cette adhésion par Internet. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, où ils ont besoin d'autre chose.
Oui, je voudrais comprendre comment ça se matérialise. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ça, Nathalie Drillon. Ce sont quoi ? Ce sont des influenceurs, des groupes de discussion, Marie Drillon ?
Je voudrais juste compléter. Je trouve quand même que, à la faveur de cette dernière année là, la notion de communauté virtuelle, je ne sais pas si c'est très bien de le dire comme ça, mais a beaucoup compté, entre autres avec les chaînes YouTube qui ont eu énormément de vues. Et dans l'anxiété individuelle, se retrouver avec un groupe qui pense comme vous et qui défend les mêmes positions, c'est pas la même chose que le physique, je suis d'accord, mais dans l'époque actuelle, ça a remplacé ce qui aurait peut-être été différent si les étudiants pouvaient être encore ensemble à la faculté, si on pouvait se retrouver pour prendre des cafés de temps en temps et avoir une communauté physique, quoi.
Voilà. Mais la question est de voir le niveau de dangerosité effective du fait même de se regrouper dans une communauté de croyances sur Internet.
Là, on parle de celles, qui sont quand même à la base. Enfin, moi, ce dont je parle, là, c'est celles qui transmettent des messages quand même qui sont des messages faux. Hein. On parlait de l'esprit critique tout à l'heure, mais des fake news. Et donc, qui les multiplient et qui montent en puissance intérieurement avec des peurs personnelles qu'on aurait... qu'il faut essayer, en tout cas, de calmer, d'apaiser et pour revenir à quelque chose de plus sensé. Si
vous parliez de YouTuber tout à l'heure. C'est vrai qu'il y en a un, notamment le plus célèbre. On ne va pas donner son nom ce soir, on ne va pas donner des idées, mais c'est celui qui a été le plus signalé à la Miviludes. Sa chaîne YouTube a 525 000 abonnés. Il ne croit pas à la vaccination, il ne croit pas aux médicaments. Il conseille des jus de légumes ou de faire du trampoline pour faire bouger la lymphe. C'est grave, des choses comme ça, Nathalie.
Il
ne
croit pas forcément au virus, d'ailleurs, ni aux maladies.
Vous voyez de qui je parle, donc.
Oui, bien sûr, ces propos c'est n'importe quoi. On est tout à fait d'accord avec ça. Bon, après, ce qu'il faut voir, c'est le nombre de personnes qui suivent rigoureusement ce genre de choses, qui y croient rigoureusement, ceux qui écoutent. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre ceux qui adhèrent pour des abrutis, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se faire entraîner parce que pour des tas de raisons qui peuvent quand même être largement... dépasser la situation de Covid que nous vivons. Mais il y en a beaucoup qui vont écouter ça, regarder ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérive.
Ouais.
Mais je voulais juste vous attirer votre attention sur les chiffres. Combien y a-t-il réellement de dérives avec ce genre de réseau social et avec ce genre de YouTubeurs? C'est moins sûr. Il y en a beaucoup qui le regardent, il y en a beaucoup qui écoutent, qui vont suivre à la...
Mais tous n'adhèrent pas forcément, et Dieu merci, ne mettent pas leur santé en danger. Je voudrais qu'on prenne un témoignage en ligne, si vous le voulez bien. Bonsoir, Lucas Legal.
Bonsoir.
Alors vous, votre histoire, elle est complètement différente de tout ce qu'on vient de parler, mais elle est quand même très intéressante. Vous avez été enrôlé au sein de l'Église de Scientologie. Vous racontez ça dans un livre intitulé « Un milliard d'années » aux éditions du Cherche Midi. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Vous avez été enrôlé, en fait, par votre famille quand vous aviez 10 ans. Et vos parents, dites-vous, avaient des failles psychologiques et affectives profondes. C'est ça qui explique qu'ils se sont fait « alpaguer » entre guillemets par la Scientologie ?
En ce qui les concerne, oui, mais non. Moi, je suis assez d'accord avec le fait que, à un moment ou à un autre, dans un parcours de vie, comme ça vient d'être dit, à un moment ou à un autre, dans un parcours de vie, c'est vrai, on est tous abrutis de quelqu'un, mais on peut être tous le faible aussi de quelqu'un à un moment ou à un autre.
Ouais.
Donc je ne crois pas qu'on puisse décrire les clients ou les adeptes des sectes comme étant des gens particulièrement stupide, particulièrement prompt à gober n'importe quoi, et plutôt comme des gens qui, effectivement, à un moment ou à un autre, sont en désespérance et qui n'ont pas abandonné l'espoir. Et c'est une vraie question, cette question de l'espoir. C'est est-ce qu'on doit maintenir un espoir coûte que coûte, comme ça l'est dit par le politique, comme ça l'est dit dans l'éducation, ce qu'on dit à nos enfants. Est-ce que tout va bien toujours? Est-ce que le réel ne peut pas être difficile? Et est-ce qu'il ne s'agit pas d'adopter ou de s'adapter au réel tel qu'il est?
Oui, parce que ce que vous expliquez très bien, c'est que au début, on y trouve des bénéfices. C'est même plutôt sympa. Ça nous redonne du sens à la vie.
On pourrait trouver des bénéfices, oui. Alors, on trouve des choses qui font écho à... Voilà, parce qu'en fait, aucune secte ne dit, ne prône de messages totalement ineptes. On y parlera toujours d'amour, de monde meilleur, de félicité, d'aller mieux. Et ça parle à tout le monde. Maintenant, la question de est-ce que c'est possible? Vous savez, les sectes, c'est pas nouveau, hein. Les millénaristes, on a eu peur du changement de millénaire. L'essor des sectes au moment de la peste est colossal. On le retrouve au moment de la grippe espagnole. On le retrouve au niveau de la pandémie. Moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui va se passer quand vraiment la planète va commencer à se dérégler et qu'il n'y aura plus de flotte et qu'il fera très chaud. Là, je crois que les mouvements sectaires seront d'une ampleur qui sont inimaginables encore aujourd'hui.
C'est intéressant ce que vous dites. Comment vous réagissez autour de la table, Marie Drillon ou Nathalie Lucas, à ce que vient de dire
Mais je le trouve très juste. Je le trouve très juste. Et évidemment, plus le monde va mal et plus le besoin de donner sens, le besoin de garder espoir est grand. Et qu'à un moment, dire peut-être on peut aller mal. C'est pas grave d'aller mal. On peut reconnaître aux gens leurs faiblesses et qu'ils vont mal sans leur dire non, mais demain vous allez aller mieux. Parce que ça, c'est exactement la civilisation dans laquelle on vit, nous impose d'aller bien, nous impose du bien-être, nous impose tout ça. Et après, on s'étonne qu'il y ait des groupes qui en profitent. Mais plus on ira mal et plus on dira non, mais vous devez aller bien là, il faut que vous fassiez ça, c'est le positive thinking, vous allez y arriver, plus il y aura des groupes qui rebondiront dessus pour dire oui, on va vous aider à aller mieux. Et en fait, on n'aide pas à aller mieux parce que des fois, ça ne va pas bien et qu'au contraire, il faut accepter que ça aille mal. Et donc, pour moi, ce n'est pas un problème de secte, c'est un problème de société. Il faut changer quelque chose, y compris dans notre éducation, pour faire admettre aux gens que, leurs parents, ils peuvent aller mal, ils peuvent avoir des vraies douleurs et en fait, ça va mal. Là, aujourd'hui, ça va mal. On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de la crise, on n'a pas de solution miracle, on ne sait pas exactement si le vaccin il va marcher, on ne sait pas. Mais ça, c'est quasiment inaudible. Donc du coup, on a un autre discours, et ce discours a des conséquences, c'est que les gens se disent « Ah tiens, il nous a dit ça, que les masques ça ne marche pas. » Ce n'est pas vrai, pourquoi celui-ci n'aurait pas raison? À partir du moment où l'État, les politiques, la société ne sait pas dire « je ne sais pas » et on va mal, eh bien du coup... On donne un faux espoir ou on donne une ligne de conduite. Et comme cette ligne de conduite ne marche pas forcément, on donne la possibilité à d'autres lignes de conduite de prendre le pouvoir, de prendre de la force. Et ce jeune homme, cette personne a raison. On n'est pas au bout des crises. les groupes apocalyptiques ne vont pas s'arrêter demain. Les vendeurs de bien-être ne vont pas s'arrêter demain parce qu'on est dans une société où on vous dit qu'il faut chercher le bonheur tout le temps. Où on vous dit dans certaines émissions « Ah, mais le bonheur, c'est de prendre une tasse de thé en se levant le matin. » Donc le bonheur existe, on doit le chercher. Si on ne l'a pas, ça veut dire qu'on n'est pas au bon endroit.
Serge Effèze, vous validez ce que vient de dire Nathalie Lucas ?
Oui, tout à fait, au sens où les adhésions de type sectaire, en tout cas se mettre sous l'emprise d'un discours, se relève toujours de l'angoisse et de la peur. C'est-à-dire que les sectes fleurissent sur les angoisses personnelles et sur les peurs de chacun en donnant des discours, effectivement, qui promettent la rédemption, qui promettent la pureté, qui promettent le bien-être, qui promettent le bonheur éternel et qui promettent de sortir de cette angoisse existentielle. Et par rapport à cela, j'aimerais quand même insister sur le fait que aujourd'hui, on n'a plus besoin d'entrer physiquement dans une secte fermée qui va vous promettre le bonheur pour être dans cette emprise, que les communautés virtuelles ont exactement la même force d'emprise que les communautés réelles, et que malheureusement, je vois de plus en plus de jeunes qui se reconnaissent dans des communautés avec des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées physiquement, mais qui ont une force de conviction largement aussi forte que les communautés réelles. Et c'est ça qui m'apparaît le plus problématique à l'heure actuelle, c'est que, d'une certaine façon, le mal est partout. Enfin, la possibilité du mal est partout, et que c'est beaucoup plus difficile de l'appréhender que lorsque on va interpeller un groupe de personnes qui ramènent chez eux des brebis égarées.
Marie Drillon ?
Oui, je crois que c'est très vrai. C'est l'évolution de la société fait qu'on est aujourd'hui dans une société... Moi, je ne sais pas en fait qui dit qu'il faut qu'il y ait le bien-être. Mais en tout cas, l'ensemble de c'est ça. Est-ce que c'est la suite des années des 30 glorieuses et donc d'une espèce d'utopie de monde parfait où tout le monde serait au top de son niveau ? Alors que ce n'est pas la réalité, que voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et on a oublié de le dire, je pense, ça c'est tout à fait exact. Mais il y a aussi des vrais problèmes de société et des problèmes d'éclatement, si vous voulez. Je pense que certains ne savent pas à quoi se raccrocher. Bon, voilà, je fais ce constat-là. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il faut apporter compte, si ce n'est que tous, les uns et les autres, on puisse d'abord se rendre compte que ça peut donner des drames, ça n'en donne pas. Bien sûr, tout le monde n'en a pas. Bien sûr, il y a des gens qui regardent ces vidéos sans rien. Mais il y a aussi ce jeune homme qui a terminé à l'hôpital psychiatrique parce que, en boucle. Donc, d'avoir une vigilance et de se dire, bah, regardez aussi ce qui se passe sur celui d'à côté, pas sur la personne d'à côté, et pas le « j'en ai rien à faire ». Et essayer éventuellement de dire, mais d'alerter. Après, des adultes, ils sont libres.
Voilà. Oui, bien sûr.
Mais alerter, être vigilant et protéger aussi les enfants, parce que dans ces mouvements-là, les enfants sont souvent ceux qui trinquent.
Alors justement, on va reprendre en ligne Lucas Le Gall. Je le disais, vous avez été enrôlé au sein de l'Église de Scientologie. Vous racontez tout ça dans un livre, Un milliard d'années, aux éditions du Cherche Midi. Vous écrivez dans ce livre que donc vous avez à peu près 11 ans et demi, vous êtes à l'école de la Scientologie. Vous étiez un bon soldat, vous n'aviez pas l'esprit critique, vous étiez le parfait adepte, dites-vous. Et pourtant, vous êtes aujourd'hui le parfait exemple, la preuve qu'on peut s'en sortir. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez commencé à douter, que vous êtes dit, bah finalement, c'est pas le paradis, ce truc-là. Hein.
L'observation, c'est-à-dire, en fait, la différence... Alors, il se trouve que, en raison de la nature de mes parents, de mon éducation, j'étais relativement sceptique en face de l'autorité. Et en fait, j'étais pas persuadé que mes parents avaient toujours raison, loin s'en faut. Et puis, un peu plus tard, je me retrouve, en fait, dans un mouvement où on dit... on va aller mieux, on est les messagers du bonheur, etc. Et moi, je constate assez vite, à ce moment-là, je suis dans une organisation à Copenhague, c'est assez dur.
Vous avez beaucoup voyagé avec l'Église de Scientologie, vous aviez des fonctions importantes, hein. Vous n'étiez pas un adepte lambda, entre guillemets, pour aller vite.
Je suis devenu le bon petit soldat, en fait, vous voyez, on pourrait se rapprocher des jeunesses hitlériennes ou staliniennes, j'étais le bon petit exemple, quoi. Bref, donc j'étais au Danemark et je voyais bien que les gens étaient heureux. Qui se chamaillaient sans cesse, qui s'envoyaient à la figure sans arrêt des bribes de théorie pour se contraindre les uns les autres, qui n'étaient pas en collaboration, et puis physiquement, qui n'allaient pas bien, en fait. Et donc, c'était assez curieux d'être dans un endroit qui aurait dû être l'Éden, et de me retrouver finalement aux portes de l'enfer. Donc ça a commencé à implanter un doute assez sérieux. Et puis il y a eu un moment, alors qui est arrivé plus tard quand j'étais donc en Californie et j'étais juste en dessous du numéro 1 de la scientologie.
Oui, vous étiez très très haut dans la hiérarchie de la scientologie à cette époque-là. Hein.
Ah oui. Ouais, je suis monté comme lieutenant direct de David Miscavige, qui était le patron de la scientologie et qui est le meilleur ami de Tom Cruise. Ouais. Encore une fois, sur un malentendu, c'est-à-dire sur l'idée que j'avais la gueule de l'emploi, on va dire. Et puis que j'étais jeune et donc malléable. Et à ce moment-là, on me confronte dans mon système de valeurs à quelque chose qui m'est insupportable, que je ne peux pas franchir. À partir de ce moment-là, je fais dissidence. À partir de ce moment-là, la rupture est consommée, en tout cas psychiquement, entre qui je suis et ce qui est prôné dans la secte. Bon, il se trouve que moi, j'ai cette chance d'avoir été rétif dès le départ et sceptique, je dirais, relativement à l'autorité. Ça concerne, vous savez, il y a l'expérience de Milly Graham le démontre assez bien. Ça concerne 25% environ de la population. On ne l'explique pas très bien. Bon, il se trouve que j'étais rétif à l'autorité. Bien
et c'est ça qui vous a sauvé, finalement. Hein, qui vous a donné la volonté, la force de partir, parce que vous aviez 17 ans, vous n'aviez pas de passeport, vous n'aviez pas d'argent, et vous avez dit « ciao, j'arrête », quoi.
Oui, enfin voilà, je me suis évadé le jour de mes 18 ans, effectivement, mais en volant mon passeport, et puis en récupérant un peu d'argent pour prendre un avion, effectivement. Mais si vous voulez, le processus était déjà engagé, et il était un processus de défiance relativement à ce que représentait l'autorité. Et tout ça, en fait, était venu par petites lézards, par construction, si vous voulez, d'une faille qui s'agrandissait et qui s'est, je dirais, définitivement concrétisé au moment où j'ai été mis en face d'une impossibilité dans mon système de valeurs pour moi.
Ouais, parce que vous aviez une sacrée force de caractère et vous n'étiez pas si jeune que ça, peut-être jeune dans votre âge, mais pas jeune dans votre tête. Merci pour ce témoignage très fort, hein, Lucas Le Gall. Serge Eiffez, il faut avoir énormément de force, on l'entend, hein, pour être capable de faire ce qu'il a fait, Lucas Le Gall. Hein.
Oui, tout à fait. Mais il faut voir que, encore une fois, la force, le bien-être, etc., ne sont pas constitutifs éternellement de chacun de nous. On a tous des moments d'inflexion, des moments d'angoisse, des moments de doute, des moments de dépression tout au long de notre vie. Il y a des moments où on peut résister et des moments où on ne peut pas. Que ce moment est un moment de fragilité particulier pour tout le monde, hein, et moi j'entends de plus en plus de gens qui sont au bord du burn-out à l'heure actuelle avec la crise sanitaire et qui donc demandent cette vigilance. Mais effectivement, il a raison, on n'est pas tous égaux par rapport à la façon dont on va adhérer à un certain nombre de croyances.
Juste, il nous reste une minute. Est-ce qu'on peut faire quelque chose quand on sent qu'on a un proche qui est pris dans ce piège, hein, de secte ?
Il faut toujours parler, il faut toujours essayer d'être en contact. Ce qu'a dit ce jeune homme à ce niveau-là est encore intéressant, c'est-à-dire que l'attitude des parents avant même qu'il rentre dans la secte lui a donné cet esprit critique. Si vous enseignez l'esprit critique à votre enfant à un moment ou un autre, même s'il rentre dans une secte réellement, à un moment ou un autre, ça fait un déclic.
Ça va revenir.
Si on ne lui a pas donné cet esprit critique, mais il ne l'a pas. Donc
il faut avoir les clés, finalement. C'est comme tout dans la vie. Merci infiniment. Merci pour ce débat passionnant et terriblement inquiétant en même temps. Merci à vous de m'avoir accompagnée.
Merci.
Europe 1, Isabelle Millet.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. On va vous parler, on change complètement de sujet, on va vous parler d'une des plus grandes stars françaises, Vanessa Paradis. On vous racontera le jour où la chenille est devenue papillon. À tout de suite. On est toujours ensemble sur Europe 1 et dans ce Club des idées, on va maintenant plonger comme chaque soir dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité, ça s'appelle Le Jour Où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Europe 1. Bonsoir Diane Chenouda.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Allez, on va remonter quelques années en arrière, dans mon adolescence pour tout vous dire.
Oui.
5 mars 1990, jour où Vanessa Paradis remporte le César du meilleur espoir féminin pour le film Noce Blanche.
Oui, alors quand je vous dis Vanessa Paradis, vous me répondez immédiatement...
Joe le taxi.
Mais oui, bien sûr, forcément. Joe le taxi. Succès phénoménal de l'été 1987, en tête du top 50 pendant 3 mois. La jeune Vanessa n'a que 14 ans quand sort son premier tube. Écoutez-la se confier au micro de notre reporter à l'époque, Philippe Berti.
Oui, ça faisait bien 4 ans que j'avais envie de chanter.
Et alors là, vous êtes numéro 1 du top 50 devant Madonna, qu'est-ce que ça fait?
J'arrive pas à y croire de toute façon, mais c'est génial, c'est super.
Et vos copines à l'école, comment ça se passe?
Ça se passe très bien, elles sont contentes pour moi.
Elles sont pas un peu jalouses?
Non.
On a l'impression qu'il y a plein de jeunes filles, elles ont, je sais pas, entre donc 14, 15 ans, 18 ans. Alors il faut être une petite fille pour que ça marche maintenant?
Je sais pas, moi c'est sûrement pas à cause de moi, c'est à cause de la chanson que c'est arrivé à ce point-là. C'est, les gens n'ont pas acheté le disque à cause de moi, à cause de la musique. Que j'ai 60 ans ou 14 ans, c'est la même chose, je pense.
Vanessa Paradis, c'est pas votre nom?
Si, c'est mon vrai nom.
Le taxi va pas partout.
Je suis pas sûre d'avoir envie d'arrêter, mais bon, on va quand même continuer, puisqu'il y a la musique, effectivement, Vanessa Paradis, sa voix d'adolescente de 14 ans, et puis il y a le cinéma, et quel succès au cinéma.
Oui, avec la sortie en 89 de Noce Blanche, son premier rôle sur le grand écran, l'histoire d'une passion impossible entre un quinquagénaire prof de philo qui tombe amoureux d'une ado de 17 ans, Mathilde, incarnée par Vanessa Paradis.
Je sais que je suis passionnée, que si on doit avoir un point commun avec Mathilde, c'est qu'on est entière, quoi. Je veux dire, j'aime les choses, que je déteste les choses, il n'y a jamais juste milieu. Et quand je fais les choses, j'essaye d'aller jusqu'au bout. En tout cas, je déteste m'arrêter au milieu et en chemin, quoi.
Vanessa Paradis, donc en octobre 89, au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Et puis, en mars 90, eh bien, elle remporte le César du meilleur espoir féminin pour ce rôle dans Noce Blanche. Écoutez ce qu'elle répondait à Laurence Ferrari quand elle lui demande si le cinéma la tente autant que la chanson.
Oui, bien sûr, c'est quelque chose. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est formidable quand le journaliste me dit « qu'est-ce que vous allez choisir ?» On ne peut pas choisir parce que... Moi, je me rappelle quand j'étais petite et que je regardais les interviews, les Césars, entendre les acteurs parler en disant « c'est un métier formidable, mais tout le monde... » Mais le cinéma, c'est vraiment... Le cinéma et la chanson sont les plus beaux métiers du monde.
Et puis le succès de Noce Blanche sonne aussi comme une revanche hein, pour celle qui a été jalousée, considérée comme une Lolita de la chanson un peu frivole.
Moi, ce que je vis depuis le succès du film et depuis que je reçois des prix, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont marché sur les pieds et qui m'ont mis plus bas que terre, qui aujourd'hui viennent me cirer les pompes. Et à ceux-là, je leur dis merde, quoi.
Et voilà, le langage franc de Vanessa Paradis, oui. On adore ça. Succès également pour elle sur la scène de l'Olympia.
Oui, c'est sa première Isabelle à l'Olympia en 93 et elle enflamme la salle.
Hésitante dans ses provoques, fragile toujours, on lui lance plus de pluches que de roses rouges, elle jette des bonbons dans la foule et demande après moult évanouissements à ce qu'on ne pousse pas trop les nymphettes du premier rang. J'aimerais tant qu'elle passe une bonne soirée.
Et j'avais vachement la trouille quand même, heureusement que vous étiez là, vous étiez vraiment dans le cœur.
Voilà, c'est un extrait de reportage de Stéphane Soumier. Et puis tout le monde se souvient évidemment de cet intense moment d'émotion que Vanessa Paradis nous a offert au 48e Festival de Cannes. On est en 95.
On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés.
La chanson de Jules et Jim, bien sûr, en duo avec Jeanne Moreau. Et puis en 2008, Vanessa Paradis rafle 2 victoires de la musique, artiste féminine de l'année et meilleur album pour Divini Deal. Et depuis, évidemment, son succès ne se dément pas.
Merci beaucoup à vous, Diane Chénaudin. Merci.
Avec plaisir, Isabelle.
Dans un instant, ce sera le rappel de l'actualité avec Julien Pierce. Et puis musique avec vous, Émilie Mazoyer. Musique encore. Quel est le programme ce soir?
Ah, Isabelle, ce soir, c'est notre Australienne préférée qui est notre invitée, Kylie Minogue.
Oh!
Qui nous fait danser quand même depuis les années 80, ça commence à faire cette histoire.
Pas, ouais.
Voilà. Et elle vient de sortir son 15e album, Disco. Le titre donne un petit peu l'idée. Hein. On va danser aussi avec Kylie, donc, qui est notre invitée ce soir dans Musique.
Mais vous avez trop de chance. C'est génial pour une soirée du vendredi. Merci, très belle soirée. Bon week-end à tous. Je vous retrouve lundi dès 18h avec Julien Bugier. D'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr.